bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et cette semaine, on continue notre série sur les biais cognitifs avec un épisode sur ce que j'ai appelé la supériorité illusoire. Et pour introduire cet épisode, je voudrais vous lire une citation de Garrison Keillor. Citation. Bienvenue à Lake Wobegon, où toutes les femmes sont fortes, tous les hommes sont beaux, et tous les enfants sont au-dessus de la moyenne. Cette citation décrit une ville fictive, mais elle représente un biais psychologique bien réel chez l'être humain. Et dans cet épisode, je voudrais explorer ce biais de la supériorité illusoire. Je voudrais voir comment il s'applique, où est-ce qu'il s'applique, qu'est-ce qui le crée, et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour mieux comprendre vos propres réflexions, celles de votre famille, de vos amis, et bien sûr de vos prospects. Le but, c'est de mieux comprendre le comportement humain pour pouvoir mieux communiquer et persuader plus efficacement. Si vous voulez retrouver l'ensemble des épisodes de cette série, l'ensemble des biais cognitifs et télécharger un PDF qui rassemble tous les biais et tous les éléments psychologiques dont on a parlé tout au long de la série, vous pouvez vous rendre sur le site à l'adresse marketingmania.fr/biais, B-I-A-S. L'effet de supériorité illusoire, c'est la tendance très humaine à surestimer nos capacités. Il y a un exemple classique là-dessus que j'aime beaucoup, c'est une étude qui avait à l'origine été conduite en 80 par un gars qui s'appelle Svensson, à mon avis un Suédois, qui avait sondé un certain nombre de personnes en Suède et aux États-Unis et qui leur avait demandé de comparer leurs capacités en tant que conducteurs. Et voilà, est-ce qu'ils conduisaient bien et est-ce qu'ils conduisaient de façon sécurisée? Et 93% des Américains et 69% des Suédois considéraient qu'ils étaient au-dessus de la moyenne en termes de capacité de conduite. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que les gens ont souvent tendance à penser qu'ils sont au-dessus de la moyenne quand c'est mathématiquement impossible que tout le monde soit supérieur à la moyenne. Alors on va se demander un petit peu comment est-ce que cet effet marche? Pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Et quels sont les mécanismes qui créent cet effet de supériorité illusoire? La première chose à mentionner, c'est ce qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger. Cet effet est nommé comme ça par rapport aux gens qui l'ont découvert pour la première fois, qui sont David Dunning et Justin Kruger, qui étaient des psychologues à Cornell en 99. Et leur étude était inspirée d'une anecdote. Et je vais commencer par vous décrire l'anecdote parce qu'elle est assez farcie. Elle est assez farcie, ça se dit ça? Parce qu'elle est assez, assez marquante. L'anecdote, c'est celle d'un homme qui s'appelle MacArthur Wheeler qui a attaqué deux banques. Et il a attaqué des banques qui avaient des caméras de sécurité. Il était convaincu que les caméras de sécurité n'allaient pas capturer son identité parce qu'il s'était couvert le visage avec du jus de citron. Son idée étant que comme le jus de citron permettait de créer de l'encre invisible, alors s'il se couvrait le visage de jus de citron, il allait devenir invisible aux caméras de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est pas de voir que cet individu-là était un peu perdu, c'était pas un excellent braqueur de banque. Ce qui est intéressant, c'est de se demander comment est-ce que lui-même ne savait pas qu'il était complètement débile ou que son idée était absurde. Et c'est ça qui a inspiré Dunning et Kruger à faire leurs fameuses études. Et au final, ce qu'ils ont découvert au fur et à mesure, c'est que quelqu'un qui est incompétent dans un domaine, généralement ne se rend pas compte de sa propre incompétence. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes incompétent, vous n'êtes pas capable de reconnaître votre propre niveau de compétence et surtout de reconnaître à quel point les autres sont meilleurs que vous. Puisque les caractéristiques qui vous permettent d'être bon dans un domaine sont aussi ceux qui vous permettent d'évaluer le niveau de compétence de vous-même ou celui des autres. Et donc, l'effet qui a été finalement isolé par Dunning et Kruger était le suivant. Une personne qui est incompétente dans un domaine va avoir tendance à surestimer sa compétence et à sous-estimer celle des autres. Mais une personne qui est déjà très compétente dans un domaine va avoir tendance à voir toutes les petites subtilités. Et donc, bien souvent, si vous êtes très compétent dans un domaine, vous allez sous-estimer votre compétence et surestimer celle des autres. Pourquoi ? Parce que comme vous comprenez toutes les petites subtilités, vous comprenez les éléments où vous n'êtes pas encore parfait et vous supposez que les choses qui vous semblent évidentes semblent aussi évidentes pour les autres. Et ça, ça a une application directe en marketing qui veut dire que bien souvent, numéro un, votre prospect surestime son niveau de compétence dans votre domaine. En particulier, si vous vendez de la formation ou si vous vendez du coaching, bien souvent, votre prospect va surestimer ce qu'il sait déjà dans votre domaine. Et numéro 2, vous-même, vous surestimez probablement le niveau de compétence de votre prospect moyen. Donc moi, j'ai fait souvent l'expérience dans un domaine de commencer par imaginer la baseline à laquelle j'imagine que mes prospects vont être, donc quel va être leur niveau de compétence moyen, et ensuite aller parler à mon prospect. Je découvre qu'ils sont beaucoup moins avancés que je l'avais estimé. Parce que ce qui me semble, moi, évident, c'est encore un peu du chinois pour le prospect. Et ça, c'est un effet que j'ai remarqué encore et encore et encore avec les gens qui viennent me voir pour recevoir des conseils de marketing, c'est qu'ils surestiment la compétence actuelle de leurs prospects. Et si vous êtes dans ce cas-là, et si vous ne faites pas l'effort d'aller parler à vos prospects et d'aller vraiment essayer de les convaincre en face à face, vous pouvez avoir du mal à jauger le niveau de compétence à laquelle ils se situent actuellement. Pour vous donner un exemple concret, au départ de Marketing Mania, j'ai commencé à attaquer une cible très précise qui était les PME qui faisaient quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, disons entre 5 et 25 millions d'euros dans certains domaines très précis. Je suis parti de l'hypothèse que ces PME qui avaient quand même un chiffre d'affaires raisonnable et qui travaillaient principalement sur Internet allaient avoir un certain niveau de performance en marketing, c'est-à-dire ils allaient pouvoir suivre des taux de conversion, suivre des sources de prospects, ils allaient comprendre ce qu'est un test A/B, ils allaient comprendre ce qu'est la segmentation d'une newsletter, etc., etc., etc. J'étais parti de toutes ces hypothèses. En fait, il s'avère que des choses qui pour moi semblaient évidentes étaient encore un petit peu nouvelles ou un petit peu ésotériques pour ce marché, même sur des PME qui étaient assez avancées. Et du coup, j'ai passé mes premières semaines à pédaler dans la semoule, tout simplement parce que mon message n'était pas en accord avec le marché. Et la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui Marketing Mania comme un site qui est largement construit autour du contenu, avant tout ce podcast, mais aussi les vidéos, les articles, la newsletter, c'est une évolution de ce que j'ai découvert, c'est-à-dire que le marché cible auquel je m'adressais avait encore beaucoup à apprendre pour pouvoir bénéficier de mon expertise. Ils étaient à un niveau où moi, ce que je leur apportais était encore un petit peu au-delà de leur capacité à comprendre ou à évaluer. Donc, l'idée étant que si vous vendez de l'optimisation de campagne Facebook, ça marche bien sur les gens qui comprennent les campagnes Facebook, mais sur les gens qui ne comprennent pas encore la valeur de Facebook en tant que source de trafic et qui sont encore entièrement sur du Google organique ou AdWords, ces gens-là ne sont pas au niveau pour comprendre la valeur que vous apportez. Et beaucoup de gens qui viennent me voir, en particulier qui sont dans le domaine du consulting, qui vont fournir un certain service, se trouvent dans cette situation où leur marché cible n'est pas encore au niveau de compétence suffisant pour comprendre la valeur qu'ils apportent. Et dans ce cas-là, la solution, c'est d'éduquer votre marché. Donc vous pouvez soit le faire en face-à-face ou au téléphone, c'est-à-dire en one-on-one, un par un, si votre ticket derrière, si votre valeur de la vente est suffisante. Et si, comme moi, votre valeur de la vente tourne plutôt autour de quelques centaines d'euros par mois, ça ne vaut pas forcément le coup de faire cette éducation de façon très longue, un par un. Et dans ce cas-là, vous allez vous orienter vers du contenu, que ce soit de la formation, de la vidéo, du podcast, des articles, selon votre domaine de prédilection. Le second élément qui va soutenir cet effet de supériorité illusoire, c'est ce qu'on appelle l'optimisme irréaliste. L'optimiste irréaliste a deux pendants. Le premier élément, c'est que vous allez toujours surestimer la probabilité de certains événements positifs. Par exemple, si vous demandez aux gens qui sont en train de créer une startup la probabilité qu'ils réussissent, ils vous diront peut-être 50-50 ou j'ai peut-être 70% de chance de réussir, ce qui est irréaliste, disons, d'un point de vue des statistiques. Si vous mesuriez les statistiques vis-à-vis de la probabilité que les gens imaginent, vous auriez une déconnexion qui est assez importante. Même idée si vous demandiez aux gens la probabilité de gagner au loto. Peut-être qu'ils ont l'impression dans leur tête que gagner au loto, pour eux, c'est une probabilité de 5%, de 2%, de 1%. Évidemment, dans la vérité, c'est très très loin de ça. C'est plutôt 1 sur quelques millions. Mais naturellement, l'être humain va surestimer la probabilité d'événements positifs. Si je vous demande aujourd'hui quelle est la probabilité que dans 10 ans, vous soyez multimillionnaire, il est probable que vous surestimiez vos chances de devenir multimillionnaire dans 10 ans vis-à-vis de ce qu'en dirait un statisticien sur la population à laquelle vous appartenez. Évidemment, on comprend assez facilement en quoi cet effet-là est utile et adaptif, parce que si on n'avait pas cet optimisme irréaliste dans la réussite de nos projets, on aurait souvent du mal à faire quelque chose. Et donc, bien souvent, et c'est assez paradoxal, avoir une vision irréaliste de la réalité dans ce domaine-là va avoir un effet positif au final. Le pendant de ça, c'est qu'on va rapidement sous-estimer la probabilité des événements négatifs. Ça, c'est l'idée du « ça n'arrive qu'aux autres ». Donc, quelle est la probabilité que vous ayez un accident de voiture dans votre vie? La plupart d'entre nous, un accident de voiture, disons, fatal, où vous allez mourir, où vous allez être grièvement blessé, la plupart d'entre nous n'y pensent pas. Ce n'est pas une probabilité qui nous semble présente ou évidente. Et bien souvent, on va avoir tendance à sous-estimer ces probabilités d'événements négatifs, la probabilité que notre business fasse faillite, tout ce genre de choses, pour la même raison qu'on va surestimer la probabilité des événements positifs. Un corollaire de tout ça, c'est l'illusion de contrôle. L'illusion de contrôle, c'est l'impression que vous pouvez contrôler des choses que fondamentalement, vous ne pouvez pas contrôler. Et l'exemple le plus simple de l'illusion de contrôle, ce sont toutes les superstitions. Les superstitions, ce sont à la fois un exemple du biais narratif et du biais de confirmation qui se mélangent avec cette illusion de contrôle, où vous avez l'impression que des actions que vous faites vont être corrélées avec d'autres événements. Donc le fait de toucher du bois va enlever la malchance de ce que vous venez de dire. L'idée que briser un miroir va apporter des corrélations négatives derrière, etc. Ça, c'est quelque chose dont, dans notre société moderne, la plupart des gens vont avoir éliminé la plupart des superstitions. Mais le fait que les superstitions perdurent encore aujourd'hui, et surtout qu'elles aient existé pendant des centaines de milliers d'années d'évolution humaine, ça vous dit quelque chose, ça vous dit que l'être humain est naturellement poussé à penser qu'il peut contrôler des événements extérieurs qu'il ne peut pas vraiment contrôler. Repensons encore une fois à l'histoire de la météo, avec l'histoire des personnes qui pensent qu'ils peuvent contrôler la météo, qui peuvent faire la danse de la pluie et contrôler le niveau de pluie. Le pendant de ça, c'est qu'on va souvent sous-estimer l'impact de la chance. L'exemple le plus frappant que j'ai vu là-dessus récemment, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui vendaient des e-books dont la promesse était de gagner à la loterie. Ce qui est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on arrive à convaincre les gens que cet e-book contient la solution pour gagner au loto. Et le mécanisme qui se trouve derrière, c'est bien sûr le secret. Donc essentiellement, on va vous apprendre la technique de visualisation qui va vous permettre de visualiser que vous allez gagner au loto, qui va vous permettre de gagner au loto par onde magique que vous envoyez dans l'univers, et que l'univers va vous rendre ce que vous lui envoyez, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que cet e-book-là était vendu via des témoignages, des études de cas. Donc seulement on vous dit, voilà, ces trois personnes ont visualisé le gagner au loto et ensuite ils ont gagné au loto. Il est possible que ces trois personnes qui sont mentionnées dans l'e-book aient été inventées par un créateur d'e-book absolument cynique, c'est possible. Mais il y a une chance non négligeable que non seulement ces trois personnes existent et soient des vraies personnes qui ont vraiment visualisé et ensuite ils ont gagné à la loterie, et qu'en plus, le créateur de l'e-book croit vraiment à ce qu'il vend. Pourquoi ? Parce que c'est l'illusion de contrôle, le biais de confirmation et le biais du survivant. Donc le film Le Secret aux États-Unis a fait des centaines de milliers de ventes. Il y a eu un bouquin, il y a eu un film. Des centaines de milliers de personnes ont été touchées. Si des centaines de milliers de personnes jouent au loto chaque semaine et croient au secret, il y en a bien un ou deux ou trois ou cinq ou dix qui vont gagner au loto à un moment ou à un autre. Et donc, il suffit de prendre ces personnes qui ont gagné au loto et de lui demander qu'est-ce que tu as fait. Et bien sûr, cette personne qui a gagné au loto est convaincue qu'il a gagné au loto grâce à sa visualisation. Même si c'est un effet aléatoire sur un certain échantillon. Et que du coup, il va expliquer ça avec un biais narratif. Il va essayer de trouver les causes, les raisons. Et bien évidemment, si vous visualisez que vous allez gagner au loto et vous finissez par vraiment gagner au loto, on ne pourra jamais vous convaincre que c'était aléatoire. Vous allez avoir un biais de confirmation en béton armé et toute votre vie, vous allez continuer à visualiser des choses en espérant que vous allez gagner au loto à nouveau. Le dernier effet psychologique qui est un petit peu la fondation de tout ça, c'est ce que j'appelle l'effet, entre guillemets, du flocon de neige spécial. C'est-à-dire que tout le monde pense être un petit flocon de neige unique et que personne ne peut vraiment les comprendre et que les règles habituelles ne s'appliquent pas à eux. Et je le dis un peu avec une certaine ironie, ceci dit, je tombe exactement dans le même piège et vous aussi. Encore une fois, ces biais cognitifs, c'est quelque chose auquel on ne peut pas vraiment échapper. C'est pour ça que c'est utile de les connaître, parce qu'on peut les reconnaître, on peut essayer de les contourner ou en tout cas de compenser pour ces biais cognitifs quand on les reconnaît. Mais c'est qu'on va tous avoir cet effet du flocon de neige spécial où on se voit différent des autres. On pense que les règles habituelles ne s'appliquent pas à nous. Et justement, un effet intéressant là-dedans, c'est que la plupart des gens, même si vous leur dites que le biais cognitif existe, vont penser que non, je ne suis pas affecté par le biais cognitif. Et donc, ils vont être encore plus affectés par le biais cognitif vu qu'ils ont refusé d'être affectés par le biais cognitif. Donc, partez du principe que tous ces biais cognitifs vous affectent. En ce qui me concerne, un exemple, c'est que je suis particulièrement affecté par l'effet d'optimisme irréaliste. C'est-à-dire que ça fait des années que je fais des podcasts et encore aujourd'hui, après 4 ans à faire des podcasts de façon très régulière, après plus d'une centaine d'épisodes enregistrés, je sous-estime toujours la durée nécessaire pour faire un podcast. Même en écrivant ce podcast que je suis en train de vous faire aujourd'hui, j'avais largement sous-estimé d'à peu près 30% la durée nécessaire pour préparer l'épisode. Et ça s'applique directement en marketing dans l'idée que votre prospect va avoir une objection qui est très souvent la même, c'est de se dire « Est-ce que ce produit va marcher pour moi ?» Sous-entendu, je suis spécial. Les règles normales ne s'appliquent pas à moi. Je suis un flocon de neige unique dans le monde entier. Je veux bien admettre que ton produit marche pour cette personne et cette personne et cette personne, mais est-ce que mon produit va fonctionner pour moi parce que je suis spécial ? L'exemple qui est revenu le plus souvent pour moi à l'époque où je travaillais beaucoup sur des produits dans la séduction, c'est que les gens me disaient « Écoute, j'ai vu ta page de vente. Je trouve que ton produit a l'air génial. Je suis sûr qu'il marche pour plein de gens et tes témoignages sont très persuasifs. Mais moi, j'habite dans une petite ville de province. Alors, je pense que ça n'a pas marché pour moi. » D'un point de vue parfaitement logique, quelle est la justification pour le fait que tu habites dans une petite ville, donc la séduction va être différente ? D'un point de vue logique, il n'y a pas de justification, c'est juste que les gens vont toujours trouver une raison pour vous dire que leur situation est particulière, leur situation est différente. Si vous vendez quelque chose dans le marketing, c'est leur marché. Ah oui, je suis sûr que ce produit marche, mais bon, moi je suis dans le domaine de la cuisine et donc ça ne marchera pas pour moi. Ou alors, je suis sûr que ce produit marche, mais ça va marcher uniquement pour les gens qui sont dans tel domaine et moi je suis dans tel autre domaine, alors ça ne va pas marcher pour moi. Les gens ont toujours besoin que vous leur expliquiez pourquoi votre produit marche pour eux de façon spéciale. Si vous avez une vente en face à face ou au téléphone, c'est-à-dire de façon individuelle, c'est idéal là-dedans parce que vous allez pouvoir directement donner un exemple ou expliquer comment le mécanisme fonctionne pour cette personne. Mais si vous écrivez une page de vente ou une vidéo de vente ou un webinaire qui va s'adresser à différentes personnes, il faut que vous preniez en compte et il faut que vous vous attaquiez de façon directe. Donc, attaquez directement. Est-ce que ça va marcher pour moi ? Est-ce que ça va marcher dans ma situation ? Expliquer aux gens que oui, ça marche dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation, et voilà pourquoi ça fonctionne, et voilà pourquoi vous n'êtes pas spécial. Et essayez de contourner ce biais, parce que clairement, l'objection va apparaître dans le cerveau de votre prospect. Et dans ce domaine-là, comme dans beaucoup de domaines, il est important d'avoir fait votre recherche, d'avoir compris les différentes cas de figure que votre prospect rencontre, les différentes objections qu'il va avoir, parce que même si ces objections ne sont pas logiques de votre point de vue, vous devez y répondre. Un autre exemple qui est assez marquant pour moi, c'est que j'ai un article sur un de mes sites qui attaque un produit précis. Donc, c'est un article de séduction qui attaque un problème précis dans la séduction. Et cet article a des centaines et des centaines de commentaires. Je crois qu'on est à plus de 350 commentaires. Et à peu près 80% de ces commentaires, on va dire, sont la même chose. C'est-à-dire, j'ai lu ton article et c'est très intéressant, mais ma situation est spéciale. Voilà ma situation. Et il vous explique pendant 400 mots la situation précise de cette personne qui est exactement celle qui est décrite dans l'article. C'est-à-dire qu'il a beau avoir lu sa situation exacte dans l'article, il va toujours vous trouver des raisons absolument minimes pour vous expliquer que sa situation est spéciale et individuelle et c'est un petit flocon spécial. Donc voilà, ça c'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre. Votre prospect va toujours penser que les conseils habituels ne s'appliquent pas à lui. Et vous allez toujours avoir des gens qui vont lire votre article et vont vous poser ensuite exactement la même question parce qu'ils se sont convaincus que votre article ne s'applique pas à eux. Et c'est quelque chose auquel il faut que vous puissiez répondre, en particulier dans votre matériel de vente. Sur ce, c'est la fin de cet épisode qui était assez court. Si vous appréciez cette série sur les biais cognitifs, c'est très utile que vous alliez laisser une évaluation sur iTunes. Ça prend vraiment 3 minutes et c'est très important pour le podcast. Donc rendez-vous sur iTunes et laissez une petite évaluation, ou rendez-vous sur la plateforme de votre choix et laissez une évaluation pour le podcast Marketing Mania. Je vous en serai super reconnaissant. Si vous voulez retrouver l'ensemble des épisodes de cette série et télécharger le PDF récapitulatif de la série sur les biais cognitifs, rendez-vous sur le site à l'adresse marketingmania.fr/biais. Sur ce, je vous redis à la semaine prochaine pour le 5e et dernier épisode de notre série sur les biais cognitifs, où on parlera de comment manipuler la valeur perçue. À la semaine prochaine.